VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 26 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu hier au village d'Ogossagou, où 160 personnes ont été tuées samedi dans une attaque.
En Centrafrique, trois importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature.
Cyclone Idai, des milliers de rescapés vont pouvoir recevoir nourriture, tentes et médicaments au Mozambique.
Ici à Washington, hommage du président Donald Trump à Robert Mueller et colère envers les démocrates après le rapport du procureur spécial sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Et reconnaissance formelle par M. Trump de la souveraineté d'Israël sur la partie occupée et annexée du plateau du Golan syrien.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, le bilan de l'attaque de samedi contre le village d'Ogossagou s'établit maintenant à 160 morts. Le président Ibeka s'est rendu hier sur les lieux du massacre pour présenter ses condoléances et celles du peuple malien aux familles des victimes et pour se recueillir sur les tombes des morts. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Les populations d'Ogossagou continuent de découvrir des corps sous les décombres. C'est ce qui fait que le bilan provisoire est de 160 morts, selon Amadou Diallo, conseiller communal à Bankass. C'est dans ce contexte que le président de la République, à bord d'un hélicoptère de l'aménagement, est venu se recueillir sur les trois fosses communes du village martyrisé.
C'est un sentiment de réconfort dans un premier temps, surtout par rapport au déplacement du président de la République lui-même, venir en tout cas leur présenter les condoléances de la nation entière et la solidarité du peuple malien.
Ibeka a échangé avec les restants des habitants du village d'Ogossagou.
Nous avons le devoir de faire en sorte que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'ils avaient en termes d'organisation, en termes de capacité d'anticipation, en termes de rapidité d'intervention. En cas d'alerte, je ne peux pas tout trouver, je ne trouverai plus que le mettre une à deux heures avant d'être sur le lieu.
Le président a donné des assurances aux populations tout en interpellant les chefs militaires.
Nous ne sommes pas en temps de paix, nous sommes en temps de guerre. Aucun pilote d'hélicoptère, aucun pilote d'un vecteur aérien pouvant intervenir sur le théâtre d'opération ne peut aujourd'hui avoir ses aises. Nous ne devrons plus être surpris.
Ibeka a terminé sa visite par les blessés au nombre d'une soixantaine à l'hôpital régional de Mopti, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur ces événements tragiques au Mali en seconde partie de cette édition.
En Centrafrique, trois importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature, selon un décret présidentiel rendu public hier. Le point avec Morgane Kiriek.
Ali Darassa, chef de l'UPC, Mahamat Al-Khatim, chef du MPC, et Bissidi Souleyman, alias Sidiki, chef du groupe armé Les Trois R, seront chargés auprès du Premier ministre Firmin Grébada de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix. D'autres chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux à la primature, dont Adama Chaibou du MPC, chargé des relations avec le monde arabe. Le décret présidentiel précise que ces conseillers ont rang et prérogatives de ministres délégués. L'annonce au début du mois d'un nouveau gouvernement centrafricain avait soulevé une vague de protestations des groupes armés qui contrôlent 80% du territoire. Vendredi, le président Faustin Touadéra a donc nommé une nouvelle équipe leur accordant plus de portefeuilles sans leur confier de ministère régalien. L'accord de Khartoum signé le 6 février à Bangui est le 8e depuis le début de la crise en 2013. Aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité. La présence de la MINUSCA, forte de 11 000 casques bleus, n'a pas réussi non plus à ramener une paix durable dans le pays.
En Algérie, Toufik Heladi, directeur général de la télévision nationale, a été limogé hier. Les journalistes du service public contestent la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les raisons du limogeage de Toufik Keladi n'ont pas été précisées. En poste depuis 2012, après avoir dirigé la radio nationale, il faisait face depuis près d'un mois à une fronde de ses employés. Comme leurs collègues de la radio nationale, les salariés de la télévision publique dénoncent des pressions de la hiérarchie qui les a contraints à passer sous silence les manifestations ou d'en parler en adoucissant les exigences de la rue. Hier, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale ont manifesté à Alger. Il y en a marre de la censure, ont-ils scandé, en réclamant une télévision libre et démocratique. Depuis le début des manifs, le 22 février, une rédactrice en chef de la radio nationale et une présentatrice du journal de la télévision publique ont claqué la porte. Outre les défilés monstres chaque vendredi, les avocats, architectes, vétérinaires, employés communaux et des magistrats de la Cour des comptes ont manifesté hier à Alger et de nouveaux rassemblements étudiants sont attendus ce mardi à travers tout le pays.
En Algérie donc, c'était avec Jean-Roger Bion. Maintenant le Mozambique, des milliers de rescapés toujours isolés 10 jours après le passage meurtrier du cyclone Idai vont pouvoir recevoir nourriture, tentes et médicaments. C'est grâce à la réouverture d'axes routiers clés essentiels dans un pays désormais menacé par des épidémies que la Croix-Rouge a qualifié de vraies bombes à retardement. Le cyclone qui a provoqué des inondations monstres et éboulement de terrain et a pris de court les secours, a fait, bilan provisoire, plus de 700 morts au Mozambique, pays le plus touché, et au Zimbabwe voisin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump, visiblement content, a rendu hommage au procureur spécial Robert Mueller hier à la Maison-Blanche, tout en exprimant sa colère face aux démocrates qui demandent que le rapport de M. Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 soit publié dans son intégralité. Ce rapport a conclu à l'absence de preuves démontrant une collusion entre sa campagne électorale et Moscou, mais concernant la question de l'obstruction de la justice, si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus. M. Trump, pendant presque 2 ans, n'a cessé de qualifier de chasse aux sorcières l'enquête de M. Mueller, dont il loue le travail aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a coupé court à sa visite à Washington après une attaque à la roquette contre son pays à partir de la bande de Gaza, a reçu de M. Trump un gros cadeau préélectoral, la signature en sa présence par le président américain d'un ordre reconnaissant la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan. Pour M. Netanyahou, il s'agit là de la transformation d'une victoire militaire datant d'un demi-siècle en une victoire diplomatique. Le premier ministre israélien fait face à un défi électoral plus grand que prévu en avril, après que la police a recommandé le mois dernier son inculpation pour fraude et abus de confiance.
Et pour sa part, Moscou craint une nouvelle vague de tensions au Proche-Orient après cette reconnaissance formelle par Washington de la souveraineté d'Israël sur la partie occupée et annexée du plateau du Golan. Eric Manirakidze.
Selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, la décision du président Trump conduit à une violation grossière du droit international, entrave la résolution de la crise syrienne et aggrave la situation dans tout le Proche-Orient. De son côté, le gouvernement syrien a qualifié de violente attaque contre l'intégrité de son territoire. M. Trump n'a pas le droit ni l'autorité légale pour légitimer l'occupation israélienne, a ajouté le ministère des Affaires étrangères syrien. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël ne renoncerait jamais à la majeure partie du Golan conquis par l'État hébreu lors de la guerre des 6 jours en 1967 avant de l'annexer en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. M. Netanyahou a remercié chaleureusement et à plusieurs reprises le locataire de la Maison-Blanche. À 15 jours d'élections législatives dans l'État hébreu, la proximité entre les deux hommes était visible hier jusque dans la tenue vestimentaire identique.
En Grande-Bretagne, les députés ont adopté un amendement qui leur permet d'influer sur le processus du Brexit, compliquant davantage encore une affaire mal engagée. Grâce à cet amendement, les parlementaires vont organiser mercredi une série de votes indicatifs sur la forme que doit prendre le Brexit. En outre, 3 secrétaires d'État ont annoncé leur démission dans la soirée hier, ce qui accentue la crise politique que traverse le pays avec une première ministre qui, selon les observateurs, a perdu toute autorité et le contrôle du Brexit et semble proche de la sortie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Grâce à une nouvelle équipe, les activités d'exportation de bois vont reprendre au port d'Ouindo au Gabon après un ralenti de 3 semaines. Pendant ce temps, aucun conteneur de bois n'a pu recevoir la certification du ministère des Eaux et Forêts à cause de l'arrestation de plusieurs de ses agents impliqués dans un vaste trafic du Kévasingo, un bois précieux interdit d'exploitation dans le pays et dont le trafic se chiffre à plusieurs millions d'euros. Le secteur forestier représente environ 17 000 emplois du secteur privé et 60% du PIB. Les Nations Unies ont besoin de 470 millions de dollars pour aider les personnes qui seront en insécurité alimentaire durant la période de soudure de cette année située entre juin et août au Tchad. Ce pays touché par le terrorisme est en proie à une insécurité grandissante. Pendant le temps de soudure qui correspond aux premières récoltes, il y a souvent pénurie et flambée brutale des prix, parfois accentuée par la spéculation, d'où l'importance de développer des initiatives de secours afin de réduire les vulnérabilités. Pour terminer cette minute éco, les recettes non pétrolières du Cameroun ont augmenté de 1977 à 2703 milliards de francs CFA entre 2008 et 2018, soit une hausse de 111,66% d'après le ministère des Finances.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les Panthères Espoirs face à leur destin ce soir.
Oui, la sélection nationale gabonaise des moins de 23 ans s'est inclinée samedi dernier à Accra, au Ghana donc face à son homologue 0-4 lors du match aller comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Une défaite qui oblige les Gabonais à renverser la vapeur lors du match retour ce soir à Libreville au risque de quitter la compétition plus tôt. Je vous propose d'écouter Claude Mbourigno, coach des Panthères U23.
En face de nous, on a une équipe mature, une équipe sur le plan technique qui avait des individualités. Et donc, c'est à nous de pouvoir rectifier le tir pour la rencontre de tour. Nous avons aussi manqué de finesse, trop naïf dans le jeu. Et ça nous fait penser que l'absence de compétition a été un handicap pour nous. La preuve en est, c'est que nous avons été toujours débordés dans tous les sens sur le plan physique.
Claude Mbourigno, coach des Panthères des moins de 23 ans au micro d'Ismaël Obiangze à Libreville.
Chez les seniors, le Mali affronte le Sénégal ce soir en amical.
Oui, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la phase finale de la CAN Égypte 2019. Les deux pays sont déjà qualifiés pour la compétition. Le coach du Mali était face à la presse hier. Écoutons Mohamed Magasouba.
C'est un match phare. Nous ne nous parlons pas en rivalité contre le Sénégal. Non. Le Sénégal aujourd'hui est l'équipe la plus équilibrée d'Afrique. C'est l'équipe la plus complète. Sur le podium, c'est l'équipe la plus cotée. Depuis plusieurs mois déjà. C'est un match de donner et de recevoir. C'est pour que nous puissions mieux affûter nos armes. Il faut qu'on s'habitue à rencontrer des grandes nations de football pour que nous puissions construire une très bonne équipe pour l'avenir. L'équipe du Sénégal aujourd'hui est la meilleure équipe d'Afrique. Ça, c'est incontestable. Nous partons jouer un match pour avoir le maximum de leçons possibles pour bâtir notre équipe. Et si le Sénégal nous a aussi accepté, c'est que le Sénégal aussi a besoin de tirer quelques leçons. Donc, un match de football amical, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir.
Mohamed Magasouba au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Les Tanzaniens reçoivent des parcelles de terre comme prime de qualification.
En guise de reconnaissance pour le bon travail accompli et pour le grand honneur que cela apporte à notre pays, chaque joueur recevra une parcelle de terrain à Dodoma, la capitale de la Tanzanie, a annoncé hier le président tanzanien John Magufuli. Les joueurs ont décroché dimanche la première qualification depuis près de 40 ans de leur pays pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Tanzanie s'est qualifiée grâce à sa victoire 3-0 contre l'Ouganda, déjà qualifiée également lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Une première pour le pays depuis 1980.
En Europe, Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure.
Oui, CR7 est sorti blessé à la 31e minute du match de qualification à l'Euro 2020 entre le Portugal et la Serbie hier à Lisbonne. À 2 semaines seulement du quart de finale aller de Ligue des Champions de son club, la Juventus Turin, contre l'Ajax Amsterdam. Ronaldo, qui venait de faire son retour en sélection vendredi après 9 mois de pause, s'est blessé tout seul sur une accélération. La Juventus affronte l'Ajax à Amsterdam le 10 avril prochain. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Orlando et Philadelphie sont 119-98, Memphis et Oklahoma City 115-103, Utah et Phoenix 125-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu hier dans le village d'Ogossagou-Peul, dans le centre du pays où au moins 160 habitants Peul ont été tués samedi par des chasseurs Dogon présumés. Il a demandé au nouveau chef de l'armée de s'assurer qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le point avec le correspondant à Mopti de VOA Afrique, Mamoudou Bokoum.
48 heures après l'attaque du village d'Ogossagou, le président de la République s'est rendu sur place. C'est un Ibeka en larmes qui a présenté les condoléances de la nation à la famille des victimes. Le chef de l'État assure que justice sera faite. C'est pourquoi il a lancé un message clair à la hiérarchie militaire. Plus jamais de tels actes sur le territoire malien. Parmi la délégation, il y avait les élus du cercle de Bankassa. Aruna Sangaré est le maire de Wenkuru.
Le président de la République l'a dit là-bas, qu'il invite la population à ne pas se pencher, à parler. Que toutes les dispositions sont prises pour que les auteurs soient arrêtés et sanctionnés par la loi. Vous savez, il n'y a pas de paix sans justice.
L'attaque de Ogossagou a eu des conséquences au sein de l'armée et à la milice de Gondana Amasagou. Est-ce la solution? Voici la réponse de Oumar Tapo, leader de jeunes à Mopti.
C'est une décision qui a été prise au Conseil des ministres. Si effectivement l'association Dana Amasagou a été créée sur des bases, une base juridique, c'est-à-dire une association légale à la République du Mali qui a un RSPC, donc si l'association quitte les objectifs qu'elle s'est fixés, c'est normal que le gouvernement prenne une décision pour dissoudre cette association.
Et par rapport au changement à la tête de la hiérarchie militaire?
Bon, je crois que c'est un changement qui était nécessaire si la situation dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui, on a besoin des hommes et des femmes capables de se déployer sur le terrain et surtout écouter ses subordonnés. Tout ce que les subordonnés leur disent, ils doivent écouter et travailler avec ça. Et ils doivent être accessibles à tout moment. Donc je crois que c'est des hommes et des femmes comme ça qu'on essaie de mettre au sommet maintenant de la hiérarchie militaire. L'alternative pour la paix au sein du Mali, moi je pense d'abord qu'il faut désarmer toutes les milices présente au sein, pas dans Amasagou seulement, hein, toutes les milices, tous ceux qui possèdent une arme qui n'est pas de l'armée régulière doivent être désarmés. On ne peut pas continuer dans cette anarchie. Tout le monde porte une arme, on ne sait pas qui est qui. Et chaque jour, c'est la désolation, c'est des villages qui sont dévastés, c'est des personnes innocentes qui sont tuées. Donc ça ne peut pas continuer, il est temps qu'on arrête ça.
Il faut rappeler que dans la même zone, il y a eu une attaque similaire à Koulogo qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. Le dimanche 17 mars dernier, l'attaque du camp de Djoura dans le cercle de Tenenkou a fait plus de 20 militaires morts. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
Pour sa part, Idriss Fall a joint Boubacar Kané, le préfet du cercle de Bankass, où ont eu lieu les massacres dans le centre du Mali.
Ce qui s'est passé samedi, une bande de personnes est venue attaquer le village de Ogossagou-Peul très tôt le matin, en brûlant, en tuant les personnes qui étaient là-bas, certains dans leur sommeil, et voilà le résultat.
Apparemment, ils ont attaqué aussi un autre village.
Oui, ils ont, après Ogossagou, ils sont allés à côté, à 2 ou 3 kilomètres, un autre village, Welingra. Bon, là-bas, il y a eu un mort, parce qu'ils avaient déjà anticipé, ils avaient quitté, abandonné leur village.
Est-ce qu'on a des soupçons sur les auteurs présumés?
Bon, les soupçons, c'est les milices d'autodéfense, c'est ça, les soupçons sont orientés vers les milices d'autodéfense. mais milices communautaires.
La milice Dogon rejette ces accusations, disant qu'elle n'a pas été mêlée à ces massacres.
Bon, c'est à la justice maintenant, aux enquêteurs, de faire la lumière sur ce triste événement et impliquer ses auteurs.
Le président Ibeka s'est rendu sur place ce lundi?
Oui, effectivement, le président a passé aujourd'hui. Il a visité le village. Il a prié pour le repos de l'âme des défunts. Il a présenté ses condoléances. Et il a même présenté ses excuses et il a donné beaucoup de conseils pour la cohabitation pacifique des communautés, la cohésion sociale. Il a aussi donné des instructions fermes aux forces de sécurité, à l'administration, pour que ces violences-là ne se répètent plus.
Mais ce n'est pas la première fois et le gouvernement a décidé de officiellement dissoudre les milices. Beaucoup de hauts gradés ont été limogés. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont assez fortes pour dissuader?
Oui, ces mesures doivent être concrétisées. Les mesures sont prises, il faut maintenant les concrétiser, il faut les appliquer. Si elles sont appliquées, c'est-à-dire si les milices sont mises hors d'état de nuire, et si les nouveaux responsables militaires s'attellent au travail et à l'exécution de leur mission, donc nous pensons que les choses vont marcher.
Boubacar Kané, le préfet de Bankass dans le centre du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso voisin, la communauté Peul du centre-nord se remet lentement des tueries de Yirgu de janvier dernier. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires s'activent sur les sites d'accueil des déplacés internes, comme celui de Barsalogo, pour apporter les soutiens nécessaires aux familles affectées. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, s'est rendu sur place.
Dès le matin, sur le site de déplacés internes de Barsalogo, l'administrateur du camp mène sa ronde. Voici près de 3 mois qu'il est en charge de la bonne marche de ce camp où sont regroupées des centaines de personnes ayant fui les massacres des populations peules de Yirgu.
Nous avons au total 83 tentes qui abritent plus de 252 ménages. À la date du 31 janvier, nous avons 1132 personnes déplacées internes, composées essentiellement de 646 enfants, 197 hommes et 289 femmes.
Dressé à perte de vue, ces abris temporaires sont les témoins du traumatisme encore présent au sein de ces déplacés internes, parmi lesquels Geneva Diallo, 60 ans, du village de Sago. Elle a perdu 6 membres de sa famille dans le massacre du début de l'année.
Ils sont venus brûler nos greniers, nos maisons, tuer 3 de mes fils, mon époux et ses 2 frères. Nous avons passé 3 nuits dans la brousse avant d'être secourus par la mairie de Barsalogo. Nous sommes 31 personnes à être amenées ici, où l'on prend soin de nous, comme les auteurs sont toujours en liberté, difficile de penser à y retourner.
Un service d'assistance psychosociale aide les familles touchées par le drame à se reconstruire. Cela a apporté des changements positifs dont se réjouit le responsable de la cellule psychosociale, Noël Konkobo.
Le fait qu'ils étaient dans la nature sans protection, il y avait des problèmes respiratoires. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des services de santé, la fréquentation n'est plus tellement ça. Au niveau psychosocial, c'est le traumatisme qu'ils ont subi. Quand vous les écoutez, vous êtes en face d'une personne qui est carrément absente, ou bien quand vous évoquez un problème avec la personne, elle commence à pleurer. Je peux dire que ça produit des fruits parce que au tout début, quand vous regardez le visage des gens, vraiment, c'était crispé. Aujourd'hui, quand on est sur le site, eux-mêmes, ils plaisantent avec nous.
Dans ce camp, les déplacés se sentent en sécurité, même s'ils trouvent leur vie quelquefois difficile, explique Boukari Barry, 40 ans, venu du village de Foubé.
Nous n'avons pas assez de temps et la chaleur qu'elles produisent est difficilement supportable. Dans celle-là, nous sommes 40. Là-bas, ils sont 37. Là, ici, il y a 29 personnes. Nous souhaitons plus d'habits, plus d'eau potable. Avant, nous étions actifs. On faisait du commerce, l'orpaillage. Maintenant, nous ne faisons rien. On passe le temps à boire le thé. On emprunte de l'argent. Nous avons pourtant besoin de travail car on ne peut plus rentrer chez nous. Les Congolais, ils sont toujours.
En dépit des efforts du gouvernement et des partenaires, les difficultés résiduelles persistent sur le site, reconnaît l'administrateur du camp, Ali Tapsoba.
Comme nous entrons dans la période chaude, nous avons
52 forages, qui ont un bladeur de 10 000 litres, mais ça permet toujours pas de couvrir les besoins à nous. Sinon, sur tous les autres points, on peut saluer les efforts du gouvernement et de ses partenaires, parce que la plupart des familles ici disposent des kits d'hygiène, kits de cuisine. Les vivres sont distribués selon leurs habitudes alimentaires.
Dans ce site de Barsalgo, les déplacés se remettent lentement mais sûrement du drame vécu à Irgou, tout en s'interrogeant sur l'avenir qui les attend désormais. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Bill Barr, on le sait, a publié dimanche un résumé de 4 pages du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Le rapport dans son intégralité reste confidentiel, mais le résumé écarte toute collusion alors entre la campagne du candidat Donald Trump et la Russie. Morgan Guiriec a joint James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Dans cet document, il a dit qu'il n'y a pas eu de collusion entre les Russes et le président. La possibilité de l'entrave à la justice, c'est peu probable. Finalement, il a dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves de continuer une enquête. Donc, à mon avis, c'est un peu dit qu'il est innocent, plus ou moins.
L'enquête du procureur spécial a déjà débouché sur 34 inculpations, dont 6 anciens collaborateurs du président Trump. Est-ce que cela vous surprend que le président soit ainsi blanchi?
Plus ou moins parce que, en ce qui concerne les autres, ça n'a rien à voir vraiment avec l'idée de collusion. C'était des crimes ordinaires qu'ils ont commis il y a 10 ans. Ils ont menti au Congrès et ainsi de suite. Mais à mon avis, rien à voir avec l'idée de collusion.
Quelles sont les conséquences politiques pour les démocrates?
Ça, c'est intéressant. Pour le moment, ils ne peuvent pas s'excuser en disant qu'on a fait une erreur. Ils vont continuer à accuser le président ou à dire qu'il faut voir tout le document, etc., etc. Mais à la fin, je crois qu'il y aura au sein du Parti démocrate une espèce de division entre ceux qui disent ça suffit, continuer à enquêter sur les autres choses, les crimes du président qui ne sont pas liés à la collusion. Et il y aura des gens qui continuent d'essayer de trouver quelque chose d'autre. J'ai tendance à dire que c'est fini, c'est assez définitif. La question, qui a déclenché cette enquête au début? Est-ce que ce n'était pas Hillary Clinton avec l'assistance des autres qui ont parlé à la police nationale? C'est la question qui a commencé cette enquête qui est intéressante. Si les républicains vont continuer à enquêter sur cette question-là, je ne sais pas, mais je crois que c'est important à le faire.
Certains démocrates disent que le ministre américain de la Justice, qui a donc publié ce résumé du rapport du procureur spécial, n'est pas neutre. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est possible?
C'est bien possible qu'il n'est pas complètement neutre, mais probablement les démocrates vont commencer à dire que Mueller lui-même n'est pas neutre. Pour le moment, me semble-t-il, il n'y a pas de problème. Il est presque neutre. Et c'est définitif. À mon avis, les démocrates, maintenant, ils essaient de maintenir une idée de culpabilité. Mais je crois probablement qu'il est tout à fait innocent en ce qui concerne la collusion.
James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique, et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sébivia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.